Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Vous le savez, chaque mardi, un nouvel épisode sort sur In Power, et celles et ceux qui sont abonnés au podcast ont peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode la semaine dernière. C'est parce que je reviens tout juste d'une retraite de méditation et de yoga, et que j'ai déconnecté pendant une semaine. Vous me connaissez, on veut du vrai, donc je me voyais pas trop partager un épisode programmé. Donc ce que je me suis dit, en revanche, après la retraite, c'est que j'aimerais beaucoup recevoir son organisatrice, Anaïs. Et c'est vraiment ce que je souhaite continuer à vous partager sur InPower, recevoir des entrepreneurs, des artistes, des personnalités publiques, mais aussi des personnes comme vous et moi, car je tiens vraiment à montrer que l'on peut toutes et tous prendre le pouvoir de notre vie. C'est ce qui m'amène à l'introduction du podcast de cette semaine. Je reçois Anaïs Engel, thérapeute et coach, qui était l'organisatrice de la retraite à laquelle j'ai participé et qui a déjà eu 1000 vies. Ok, peut-être pas 1000, mais en tout cas déjà 3, d'actrice à professeur de yoga, à thérapeute en psychologie, hypnose et bien-être holistique, Anaïs a un parcours vraiment fascinant. Dans cet épisode, on aborde le sujet de la reconversion, comment faire face aux doutes quand on ne se sent plus à sa place, le rôle primordial que jouent nos croyances dans notre épanouissement aussi bien personnel que professionnel, et comment on peut apprendre à changer celle-ci grâce à la neuroplasticité du cerveau. Et on aborde aussi le sujet du couple, de la rupture amoureuse, des schémas dans lesquels on peut tomber à répétition, et comment en sortir pour vivre des relations épanouies. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous l'avez apprécié. Je lis vos retours chaque semaine et ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les épisodes à venir sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Anaïs Engel. Nous voici donc, on est quel jour ? Mercredi soir ?
Ouais, mercredi.
Juste après ma retraite. Je suis censée répondre à des emails là. Mais à la place, on s'est dit, tiens, et si on enregistrait un podcast ? Je suis avec Anaïs, qui va se présenter elle-même, hein, mais juste pour vous recontextualiser... Celles et ceux qui me suivent sur Insta savent, j'ai fait une retraite de méditation et de yoga pendant une semaine. Putain, c'est vraiment passé vite, hein. Aux États-Unis, où habite Anaïs, qui est l'organisatrice de cette retraite, d'où je ressors très apaisée. Voilà, je vous renvoie vers le post que j'ai fait un peu résumé, j'allais dire sum up. Je suis désolée si là, il y a des anglicismes qui vont bien dans le podcast. Parce qu'on est entre des Français et des Américains et des Américaines, donc voilà.
La retraite était en anglais aussi, donc...
Ouais. Et bon, voilà, je parle déjà trop, donc Anaïs, chère Anaïs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Merci Louise. Alors, qui suis-je ? Alors oui, moi je m'appelle Anaïs et j'habite aux États-Unis depuis un an et demi et je m'installe en tant que thérapeute. C'est hyper étrange en fait aujourd'hui comme terme. On sait plus ce que ça veut dire thérapeute, comme on sait plus vraiment ce que ça veut dire coach. C'est vrai que c'est des termes qui émergent, qui ont commencé à émerger il y a quelques années, qui émergent de plus en plus, qu'on utilise un peu à outrance, et on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Alors moi, ce que je fais, moi j'ai étudié la psycho, j'ai étudié le coaching, la PNL, j'ai étudié l'hypnose. Avant ça, j'ai surtout été prof de yoga. Alors c'est rigolo, je n'ai pas du tout commencé comme ça, j'ai commencé par un conservatoire d'art dramatique à Londres. Parce qu'à l'époque, bah, c'était ma passion. Et quand on m'a demandé quelles études je voulais faire, bah, j'ai commencé par m'inscrire en hippocagne. Et juste avant de rentrer en prépa, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Je me suis dit, j'ai un flashback de moi, 2 ans plus tard, complètement malheureuse, toute pâle, avec des cernes jusqu'en bas des joues. Et je me suis dit, non, mais c'est fini, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Bah, une école de théâtre. Donc, j'ai auditionné à Londres et... J'étais prise.
Bon alors, ouais, là, il faut déjà que je mette un petit stop parce que ma curiosité s'aiguise. D'où te vient cette prise de conscience ? Parce qu'à 18 ans, c'est déjà super jeune pour dire non à la voie toute tracée, la sécurité, les attentes sûrement de ta famille. Qu'est-ce qui fait que déjà tu te dis ça et que tu aies le courage de complètement chambouler tes plans, en fait, pour aller vers l'inconnu.
Ouais, alors je t'ai fait un résumé un peu rapide, mais en effet, c'était pas si simple que ça. j'ai déjà confronté le regard de mes parents et surtout le jugement qu'ils pouvaient avoir dessus, c'était pas forcément facile. Donc quand j'ai pris ma décision de pas rentrer en prépa, je me suis pas tout de suite tournée vers le théâtre pendant quelques mois pour me chercher, pour être sûre. J'ai fait 6 mois de droit. J'ai passé mes premiers examens de droit avec succès, mais alors vraiment, j'étais pas à fond dedans, quoi. Et je me souviens encore, j'étais à Lyon à l'époque, donc moi je suis lyonnaise, et donc j'étais à Lyon, je me suis inscrite en dernière minute quand je ne suis pas rentrée en prépa, je me suis inscrite à la fac de Lyon, à Lyon 3, en droit. Et je partais de chez mes parents tous les matins et je prenais le métro pour aller jusqu'à la fac. Et je me souviens encore de ce jour où j'ai eu un flash, en fait, où j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que je croisais toujours les mêmes personnes dans le métro, qu'ils étaient toujours plus ou moins habillés pareil. Bon, bah ça, très bien. Mais toujours avec, surtout, habillés pareil en termes d'humeur, de visage, tu vois, l'habillage, quand je te parle d'habillage, je me souviens pas de leurs vêtements, mais je me souviens de leur habillage d'expression sur leur visage. Je me souviens d'avoir toujours ce visage qui était terne, qui était mal éveillé, qui était un peu tristoun parfois. Et je regardais autour de moi et personne n'avait vraiment l'air heureux à 7h30 le matin, à 8h le matin, d'aller bosser, en tout cas de prendre ce métro-là dans cette direction-là ou d'aller à la fac, etc. Alors, il y en a sûrement qui étaient heureux autour de moi, mais alors, c'était pas la perspective que j'en avais. Et je me dis qu'en fait, ces gens-là, c'était sûrement le miroir de ce que j'avais à l'intérieur. C'était sûrement moi-même qui me projetais sur les autres. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui était vraiment pas heureuse là-dedans, quoi. Donc je me suis dit, non, je veux pas passer ma vie comme ça, à suivre un chemin qui est pas le mien. Et je me suis... J'ai un peu freak out, tu vois. J'ai eu un peu une prise de panique, si tu veux. Je suis rentrée le soir et j'ai dit à mes parents... Ah mais j'arrête tout, la seule chose que je kiffe en ce moment, c'est le théâtre, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Ils m'ont dit, non mais ça va pas la tête, il faut finir le droit, au moins tu passes ton diplôme de droit, t'as déjà arrêté la prépa, etc. Et finalement, en leur parlant un peu, ils ont fini par comprendre que vraiment, c'est pas ce qui me rendait heureuse et que j'avais besoin de suivre quelque chose qui me passionnait sur le moment pour m'épanouir et peut-être faire quelque chose de ma vie qui me plaise, quoi, et pas quelque chose qu'on me dit de faire parce que c'est bien d'avoir un titre, parce que c'est bien d'avoir un job. Donc voilà, donc je parlais très mal anglais à l'époque, mais alors vraiment très mal anglais, j'étais pas hyper forte à l'école, j'ai beaucoup de chance, je connaissais un peu le directeur du théâtre de Lyon à l'époque, parce que j'allais beaucoup au théâtre, et lui m'a dit, écoute, si tu veux vraiment tenter ta chance dans ce milieu-là, fonce, mais va ou à Londres, ou à Berlin, ou à New York. Alors New York, ça coûte hyper cher de faire des études de théâtre à New York, ça te coûte 40 000 balles l'année à peu près. Donc je me suis dit, ok, peut-être pas, puis c'était un peu loin finalement pour moi, lyonnaise à l'époque. Puis Berlin, je parle pas un mot d'allemand. Donc même si l'anglais c'était pas ça, au moins j'avais des bases, et du coup il me restait Londres. Donc ce que j'ai fait, c'est que les 4 mois qui arrivaient là, juste après avoir pris cette décision, j'ai décidé de m'inscrire à des auditions à Londres, et j'ai bossé comme une malade, j'ai choisi des textes, je les ai appris... je les ai travaillés, mais vraiment pendant 4 mois, je me suis donnée à fond. J'avais une copine qui était bilingue, anglaise en plus, qui m'a aidée, qui m'a enregistré mes textes, qui m'a aidée avec la prononciation. Je me suis donnée à fond. J'ai passé mes auditions et j'ai été prise dans une école, dans un conservatoire qui était plutôt pas mal en plus. Mais choc, j'avais l'espoir et il y avait un truc en moi qui me disait « ça va passer ». Et je pense qu'en fait, ils étaient intéressés par mon profil. Je m'étais un peu aussi entraînée, mais ça, je l'ai un peu faké, tu vois. C'est fake it until you make it. Mais alors vraiment, mais 100%, une fois que tu passes ton audition avec le texte que tu connais, après, t'as les questions, tu vois. T'as la question du jury. Et c'est passé. Donc, je me suis retrouvée là-bas. Donc, je fast forward un petit peu. J'ai adoré mes études là-bas. J'ai adoré faire du théâtre et parce que je me suis découverte. Parce que déjà, moi, j'étais très intellectuelle. Je surpensais tout et j'ai été forcée... de commencer à penser avec le corps, donc déjà passer au-delà de mes insécurités, me présenter sur scène, comprendre le langage physique et corporel, et puis m'assumer, quoi. J'ai adoré ça, et dans une langue qui n'était pas la mienne, donc c'était hyper challenging, tu vois, c'était vachement dur, en fait, au début, de t'exprimer, de faire vivre des personnages dans une langue que tu maîtrises que dalle. Bah, petit à petit, tu la maîtrises, cette langue, et petit à petit, ça va super bien. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, c'était 3 ans d'expansion personnelle et de... Vraiment, c'est en explorant cette passion qui était la mienne et qui l'est toujours quelque part, que j'ai réussi à comprendre qui j'étais. C'est parce que j'ai embrassé ça que j'ai réussi à m'embrasser moi-même, si tu veux. Et donc, j'ai fait ça. J'ai bossé quelques années dans le théâtre, dans le cinéma à Londres. Et j'ai fini, parce que je suis tombée amoureuse, je suis finie par rentrer sur Paris. Et entre-temps, quand j'étais à Londres, je suis devenue prof de yoga et je suis rentrée avec ce bagage à Paris. Donc j'avais tout d'un coup plus d'agents, plus de repères dans ce monde des arts, du théâtre et de la scène et du cinéma. Je suis arrivée à Paris en me disant, bon, ben, je vais faire du yoga parce que c'est ce que je sais faire. Donc, j'ai commencé à donner des cours, à m'intéresser de plus en plus à la méditation. J'ai commencé à travailler dans un centre de médecine parallèle aussi. Et c'était hyper intéressant. Je suis rentrée en France juste après les attentats du Bataclan. Et j'ai eu... Alors, c'était une expérience qui encore me fait battre le cœur là quand j'en parle. Mais je les ai accompagnés dans le stress post-traumatique. Donc, ils prenaient...
Les survivants.
Donc, c'était juste après cet événement-là. Donc, il nous a tous, en plus, vachement choqués. Et je pense que c'est une autre raison qui m'a fait rentrer en France plus vite. C'est parce que tu vis... Je pense que beaucoup des Français qui étaient à l'étranger à cette époque-là ont probablement vécu ça. Il y a cette culpabilité de pas de patriote un peu, et je trouve ça très beau quelque part, de pas être avec son pays qui souffre quand ça arrive, tu sais. Donc je suis rentrée un peu dans cette époque là et quelques mois plus tard j'ai rencontré quelques personnes donc qui étaient des survivants de cet événement là et j'ai commencé à bosser avec eux, notamment avec de la méditation et du yoga. Donc travailler sur le corps, sur l'ouverture et une approche différente à l'émotion, au traumatisme qui s'ancre dans le corps. Il y en avait quelques-uns, par exemple, qui n'arrivaient plus à bien marcher, qui avaient des jambes qui ne fonctionnaient plus beaucoup, parce qu'il y avait tout un centre émotionnel ici qui était complètement bloqué, une peur de ne pas pouvoir fuir, une peur... Il y a une partie d'eux-mêmes qui n'arrivait plus à avancer, tu vois, symboliquement, métaphoriquement, ils n'arrivaient plus à avancer. Donc petit à petit, en revisitant le mouvement, ça les a vachement aidés. Et autre chose qui les a vachement aidés aussi, c'était la méditation, mais pas que. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux états liminaux, donc à cet état de conscience entre l'état de veille et de sommeil qu'on explore au moment où on va s'endormir, au moment où on va méditer, par exemple, on va découvrir toutes ces ondes cérébrales qui existent et tout cet état qui existe entre l'état « je suis alerte, je suis éveillée » et le moment où on dort. Et quand on est dans cet état-là, on devient hyper... On est hyper sensible
à la
suggestion, c'est ça. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir commencer à jouer avec l'esprit pour lui faire comprendre certaines choses. Donc passer au-delà des traumas, l'observer sous un nouvel angle, accepter certaines choses. Alors attention, on ne peut pas, dans un état liminal, je mets l'accent sur tout de suite, parce que souvent ça fait un peu peur, on dit « oh, mais on va faire ce qu'on veut de moi ». C'est pas du tout vrai, c'est-à-dire qu'on a toujours un système de valeurs au fond de nous qui est tellement fort que ça, on ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a deux choses contre lesquelles on ne peut pas aller, c'est le système de valeurs fort. Par exemple, si tu es hyper pudique, même en état d'hypnose, si je te dis « enlève tes vêtements », tu ne vas pas le faire. Et on a un système de survie, c'est parce que c'est lié d'ailleurs, parce que nos valeurs, c'est lié intrinsèquement à notre vie, à notre système de survie. Si je te dis « Louise, passe par la fenêtre, tu vas voir, tu vas voler », il y a quelque chose en toi qui va te dire non. Par contre, dès que le cerveau comprend que c'est bon pour lui, c'est extraordinaire ça, c'est notre inconscient qui travaille toujours en notre sens. Dès que tu lui expliques, c'est un peu comme un enfant si tu veux, dès que tu lui expliques bien les choses, il comprend et il va avancer dans ce sens-là. Donc à ce moment-là dans ma vie, j'ai commencé à explorer cet état-là et j'ai commencé à travailler avec eux, donc en état de relaxation, de méditation, à commencer à envoyer des messages, à leur faire comprendre certaines choses, à envoyer des messages positifs, affirmatifs, pour les aider à transformer cette perception des choses, à leur faire comprendre, à prendre conscience de la force qu'on peut gagner en traversant quelque chose de difficile et en survivant à quelque chose d'extrêmement violent. Et ça les a vachement aidés, si tu veux. Et quand j'ai pris conscience de ces résultats, que je les ai vus évoluer, à remarcher, à reprendre des études, etc., après quelques mois parfois, hein. Il y en a d'autres pour qui ça a pris un peu plus de temps, parfois c'était juste quelques mois, ça m'a donné, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il faut continuer à explorer ça, la psychologie et cet état liminal-là. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me former en psychologie, je me suis spécialisée en psychologie jungienne, et c'est là que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je faisais du théâtre, j'étais attirée par ça, c'est qu'en fait, j'adorais comprendre la psychologie des personnages.
Ouais.
Voilà.
Mais ça, tu m'en as parlé et tu t'en rends compte après cette expérience. Moi, je me demande, parce que peut-être qu'à mon avis, il y a des auditeurs et des auditrices qui se demandent, parce que du coup, tu passes quand même d'une voix très artistique à un truc vraiment très académique, théorique et tout. Et comment tu vis cette période-là, juste parce que tu vois, tu dis, voilà, je suis rentrée, j'ai fait du yoga parce que c'est ce que je savais faire, mais il n'y a pas des doutes qui t'assaillent, tu vois, est-ce que ça a été naturellement qu'en fait, tu t'es un peu éloignée du monde de la scène? Comment? Parce que j'imagine qu'il y a peut-être des personnes aussi, voilà, qui vont se dire, j'ai fait des études de théâtre, donc en fait, il faut que je continue à travailler dans le théâtre. Là où toi, t'as eu un peu la sagesse de dire, Mon diplôme ne me définit pas, donc il y a aussi un truc assez anglo-saxon. Voilà, pour telle raison, en fait, là, j'ai envie de faire du yoga en ce moment. Et t'as, enfin, je trouve que c'est une très belle leçon, parce que ça montre que, en fait, il y a plein d'expériences différentes dans nos vies qui peuvent nous amener plus proche de ce qu'on souhaite réellement. Et ça rejoignait un peu ce que tu disais quand t'as dit que, en fait, après tes études, ce que tu voulais faire, c'est du théâtre, même si c'est pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. En fait, en effet, je pense que plutôt que parfois de se prendre la tête à se demander ce qu'on veut faire dans 20, 30, 40 ans, demandons-nous ce qu'on veut faire là, maintenant, ce qui nous épanouit maintenant, parce que, en fait, c'est à chaque fois un pas qu'on prend vers plus d'épanouissement. Et plus d'épanouissement, et en fait, parfois, en effet, on reste trop dans notre tête au lieu d'agir. Ce que t'as fait toi, qui t'en emmené dans plein de chemins différents. Mais longue question pour juste te demander comment tu vis à chaque fois, c'est un peu ces reconversions, parce que c'est pas des périodes faciles.
Mais t'as raison, en fait, c'est plein de doutes, et ce doute-là, il est hyper bénéfique parce qu'il nous fait avancer et il nous fait poser les bonnes questions qui affirment les bonnes affirmations et les bonnes réponses, j'ose pas vraiment dire ça, mais qui nous entraînent vers des questions qui nous font encore plus grandir. Et cette question-là, te dire, mais en fait, tu t'es pas senti un peu bizarre de pas continuer à faire du théâtre? Et si, en fait. Et j'avais même mes parents un peu derrière moi qui me disaient, mais le théâtre, t'as fait des études comme ça quand même, donc il faut peut-être que t'y retournes. Et il y avait une partie de moi qui avait envie d'y retourner parce que j'ai adoré vivre de ça, j'ai adoré l'expérience que j'en ai fait sur le coup. Mais il y a des petits trucs qui étaient pas 100% moi non plus. C'est-à-dire que j'ai adoré peut-être 60-70% de ça. Il y avait mon attention qui était un peu tiraillée vers l'ailleurs, intéressée par quelque chose d'autre. Et bon, si j'ai adoré la scène, en fait, j'ai eu l'impression pendant cette période où je me suis construite, où j'ai repris des études, où je me suis formée à nouveau, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'accumule toutes ces formations-là? Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais il y a une petite chose en moi qui n'arrêtait pas de me dire, continue et suis ce que t'aimes faire. En fait, j'ai jamais su ne pas suivre ce que j'aimais faire. J'ai jamais su faire autre chose que ce que j'aimais vraiment faire. À partir du moment où je suis sortie de l'école, que j'étais un adulte, capable de prendre ses propres décisions, d'avoir testé un peu, puis pris une bouchée de cette liberté-là, ça m'a complètement intoxiquée et j'ai pas su revenir en arrière, si tu veux, et c'est sûrement une très bonne chose. Dès que j'ai goûté à cette liberté, je me suis dit, ok, maintenant je fais ce que je veux de ma vie et je suis guidée par mes passions et par ce que j'aime, parce que c'est la seule chose que je sais faire bien. Donc j'ai fait du théâtre et ensuite je me suis intéressée à autre chose et j'ai accumulé ces trucs et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est quoi ces trucs que j'accumule? Comment est-ce que je les lis les uns aux autres? Est-ce qu'ils font sens en fait ensemble? Et en fait je me suis rendu compte que c'était toutes les cordes que je pouvais accrocher à mon arc et que aujourd'hui ils font sens. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, parce que j'ai appris à me mettre dans la peau d'un personnage, même les personnages les plus dangereux, les personnages qu'on aime moins, etc., au théâtre, au travers de mes études et mon expérience après, j'ai appris ce que c'était que le non-jugement, que d'accueillir quelqu'un sans juger, par exemple. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est hyper facile d'accueillir quelqu'un en séance et de l'écouter pleinement, avec tout mon cœur, parce que cette compassion-là, je l'ai appris sur scène, et je l'ai appris au travers de mes personnages. J'ai appris qu'en fait, ce que j'ai en face de moi, quand j'accueille quelqu'un, c'est un potentiel de moi-même. C'est qu'on est tous capables de tomber dans cette dépression, dans une obsession, dans une violence, quelle qu'en soit la noirceur. On a tous ça quelque part en nous, et que tout le monde a le droit d'être accompagné vers la lumière. Et ça, je l'ai appris au travers de l'expérience du théâtre. Le yoga, ça m'a appris, ça m'a poussé encore plus dans cet esprit de compassion et d'amour, en fait. C'est une pratique qui m'a aidé à m'ancrer, à avoir une nouvelle vision de moi-même, à accepter mon corps, parce que moi, j'ai eu beaucoup de... Alors voilà, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi en psycho, c'est les troubles du comportement alimentaire. Moi, j'étais à fond dedans quand je suis arrivée à Londres. Alors le théâtre m'a beaucoup aidée à accepter mon corps comme et tous ses muscles comme quelque chose de puissant pour me porter sur scène. Le yoga m'a fait aimer mon corps, tu vois. La méditation aussi, mais c'était un processus, tu vois. Ça a pris du temps de sortir d'un trouble du comportement alimentaire et d'arriver à un stade où on est complètement bien avec la nourriture. Ça m'a pris plusieurs années, si tu veux, plusieurs années où j'ai appris à me comprendre et où je me suis tournée vers des thérapeutes quand j'ai commencé à comprendre l'outil thérapeutique, tu vois. Donc ça, c'était vraiment un cheminement hyper intéressant. Et ensuite, toutes ces expériences-là, le yoga, les retraites de yoga, prendre conscience, par exemple, et tu l'as vécu cette semaine, qu'en une semaine d'intensif, de retraite, de travail sur soi, et ben c'est pas comme... voilà, on fait notre cours et après on est replongé dans la vie speed de Paris ou d'une ville ou de notre réalité, que parfois on se reprend un peu dans la gueule, tu vois. C'est là, on vit cette expérience-là et on a le temps d'intégration, donc on lâche pas le morceau, on intègre, on apprend encore et après on en rajoute une couche et on en rajoute une couche. C'est comme un fast-forward, tu vois, c'est une façon d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on avait ces formules-là, donc ça je l'ai appris par le yoga, j'ai toutes mes formations, elles m'ont donné des nouveaux outils de coaching, d'accompagnement, donc aujourd'hui c'est trop chouette parce que ce soit un accompagnement pro, perso, une gestion d'un trauma ou quoi, j'ai toujours une réponse à apporter aux personnes qui viennent me voir. Ou en tout cas, j'ai toujours une façon de leur faire un bond gigantesque ou les premiers pas pour avancer dans une direction particulière. Et ça c'est parce que j'ai eu plusieurs formations et toutes ces cordes-là, c'est parce que j'ai su aller chercher ce que j'adore. Et je n'avais pas vu ça à l'époque, je me battais, tu vois, je me fouettais dans le dos, je me disais mais pourquoi je fais ça? Où est-ce que je vais aller avec tous ces petits trucs, toutes ces micro-formations que je fais ou toutes ces formations qui n'ont pas de sens les unes avec les autres? Comment je vais lier tout ça? Bah, finalement, quelques années plus tard, elles prennent forme et elles font sens et elles m'ont apporté aujourd'hui le bagage pour accompagner comme moi j'ai envie d'accompagner et aider les personnes avec une touche qui est vraiment la mienne. Quoi.
Et tu te dirais quoi, Anaïs, il y a 8, 9, 10 ans, si tu pouvais? Parce que je me dis que, enfin, je me mets à la place des personnes qui peut-être sont dans ces périodes de doute ou qui se trouvent pas cohérentes. Et bon, juste se dire un jour ça fera sens, tu vois, je trouve que c'est pas hyper rassurant. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes?
En effet, un jour ça fera sens, c'est pas satisfaisant. Mais par contre, ce qui est satisfaisant, c'est chacune des étapes à partir du moment où on prend des décisions qui sont alignées avec qui on est. C'est-à-dire que le conseil que je donne, c'est il faut suivre ses rêves parce qu'ils sont là pour une raison. En général, on a envie de faire quelque chose où il y a quelque chose qui nous intéresse et parce qu'on est potentiellement très bon en la matière. Parce qu'il y a une chose en nous qui vibre à fond quand on s'intéresse à ça. Et tu vois, par exemple, on parlait récemment, cette semaine, on a évoqué la question avec plusieurs participants des traumatismes et notamment du trouble de l'attention, ADHD, etc. Et c'est intéressant parce que ces troubles-là, c'est pas vraiment des troubles, c'est-à-dire que tout le monde est potentiellement un trouble de l'attention. Plus on est plus ou moins sensible à ça, donc on est plus ou moins attentif, pas attentif. Mais quand tu fais un truc qui te passionne, que tu sois ADHD, pas ADHD, t'es concentré, tu mets de la passion dedans, tu mets de l'amour dedans, tu mets de l'énergie et t'es pas vraiment à court d'énergie. Pourquoi? Parce que cette chose, elle te nourrit en même temps. À partir du moment où tu décides de vivre, parce que moi je suis comme ça, j'étais diagnostiquée avec ça, voilà aujourd'hui ce que j'en pense, quoi. Parce que maintenant que je vis de mes rêves, que je m'intéresse, que je ne vis que de mes passions et de mes valeurs, qui sont la psychologie, accompagner les gens, découvrir des nouvelles, des nouveaux outils pour les accompagner plus loin, enfin, j'adore faire ça, quoi. J'adore. Et je vais jamais, j'arrive toujours à aller dans cette direction, à mettre de l'énergie là-dedans, parce que je kiffe. Il y a toutes les cellules de mon corps qui sont excitées à l'idée d'aller explorer, de trouver la réponse à un problème, à trouver une solution. J'adore ça, tu vois.
On en parlait dans l'épisode avec David Laroche. Enfin, on a fait deux épisodes. Je vous invite à l'écouter si jamais ce n'est pas encore le cas, parce qu'ils sont vraiment cool. Et il disait, si vous n'avez pas de motivation, c'est que ce n'est pas le bon rêve. C'est un peu violent, mais il y a vraiment une part de vrai où c'est vrai que moi, souvent, je procrastine ce que je n'ai pas vraiment envie de faire. Alors, je pense pareil, comme tu dis pour le trouble d'attention, on est plus ou moins sensible selon nos personnalités. Mais c'est un autre point sur lequel je voulais rebondir parce que je trouve que tu as une philosophie, c'est pas... Enfin, si, c'est une forme de philosophie, mais intéressante de la considération des troubles. Donc, soit trouble du comportement alimentaire, trouble de l'attention, différents troubles psychiques ou même physiques. Ou pour toi, beaucoup ont la même source. Et ça rejoint un peu le bouquin que je suis en train de lire, là, que j'avais aussi partagé sur Insta de Louise Hay. Donc je ne vais pas dire ce qu'elle dit dedans, parce que bon, je pense qu'on sera amené à en parler. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait vachement bizarre, parce que dans notre monde moderne, qui a vachement tendance à mettre une étiquette, à donner un médicament pour chaque maladie, et franchement, le but, ce n'est pas de lancer un débat, parce que déjà dans mes vidéos YouTube sur l'arrêt de la pilule, ça lance des énormes débats, parce que j'ai choisi de faire une voix un peu plus... naturel et de parce que j'ai le sentiment que la plupart du temps c'était un pansement qu'on mettait qu'on ne résolvait pas le réel problème au fond. Et en fait, c'est vrai que je m'étais jamais dit que ça pouvait être le cas pour tout ce qui touche au psychologique. Tu vois, on me dit tellement c'est génétique, tu vois, plein d'excuses qui peuvent toi-même te faire intérioriser le fait que t'es comme ça. Et donc, ouais, je me demande, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Est-ce que d'où ça vient cette théorie selon laquelle, en fait, on peut tous avoir un trouble et on peut tous aussi en sortir. Et quel est, en gros, le principal remède à ça ? Alors, même si, bien sûr, j'invite chaque personne à se faire accompagner, mais juste explorer, tu vois, juste ce sujet de, bah, en fait, vous n'êtes peut-être pas doomed. Je vous avais dit, il y aurait des anglicismes. Vous n'êtes pas condamné à une étiquette qu'on vous a posée.
Attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a plein de trucs. Je ne sais même pas par où commencer.
C'est cadeau.
Ouais. Alors, par où commencer ? Déjà, quand tu dis, je vais revenir là-dessus, parce que c'est par là que tu as commencé. Quand tu dis, bah, il faut, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, ce n'est pas le bon rêve, c'est complètement vrai. Et parfois, c'est difficile, mais ça rejoint ce que tu dis après. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Il y a potentiellement une histoire qu'on se raconte. Il y a l'histoire qu'on se raconte que parce qu'on a fait les études, on a investi je ne sais pas combien d'argent dans une grande école, parce que tu as fait HEC, parce que tu as fait l'école polytechnique, parce que tu as fait... Bah, tu es obligé de faire un métier dans cette filière-là. Et c'est facile de se raconter ça, parce qu'on se dit, bah, non, sinon j'ai perdu du temps, de l'argent. C'est pas vrai. In fine, cette expérience, elle t'a forcément apporté quelque chose humainement, elle t'a fait comprendre quelque chose que tu aurais potentiellement, probablement pas compris autrement. Donc ça, c'est déjà important. Donc il faut arrêter de se raconter ces histoires, de se dire bah, je suis obligée de faire ça, ou se raconter l'histoire de se dire bah, cette personne, ça a l'air cool sa vie, j'ai envie de faire pareil. C'est au contraire avoir le courage de se regarder, se dire... Dans quoi est-ce que j'aime passer mon temps dans la vie aujourd'hui ? Dans quoi est-ce que... Et ça peut être des trucs, ça peut être les jeux vidéo, mais peut-être qu'il y a un truc à faire avec les jeux vidéo, tu vois. Et c'est où est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie, ou quand je fais ça, ben, je me sens plus en vie. Et c'est intéressant parce que l'histoire qu'on se raconte, finalement, ça s'étend sur l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que quand on se dit « moi, je suis comme ça et pas autrement parce qu'on me l'a dit toute ma vie, parce que mon père est comme ça, parce que ma mère est comme ça », qu'est-ce qu'on est ? Ben, on t'es juste en train de prouver ici et maintenant que t'es... Que tu incarnes un système de croyances, et que pour l'instant, eh ben, tu es ce système de croyances. Donc si tu dis « je suis trop rigide, je ne sais pas lâcher prise, je suis comme ci, je suis comme ça », si déjà tu affirmes ça, ça me prouve que jusqu'à présent, tu as eu un système de croyances qui t'a laissé penser ça. Donc déjà, c'est comment est-ce qu'on recadre ce système de croyances-là ? Alors, on est là pour ça, on est là pour accompagner les gens à penser différemment, à affirmer les choses différemment. Et là, on commence à parler de neuroplasticité. Si tu veux, qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité ? C'est cette capacité qu'a le cerveau de reconnecter différents neurones ensemble et de créer bah, de nouveaux chemins, de nouveaux tracés. Et ça, en les répétant, et bah, on crée de nouveaux chemins. Si tu veux, en général, je prends un papier, je le plie en plusieurs, tu vois, je te dis, voilà, ça, c'est le temps que je plie ce papier et que je lisse bien les bords, et bah, ça, c'est le temps que ça prend pour créer une nouvelle croyance. Mais une fois que tu as créé ce nouveau chemin de pensée, où tu commences à intégrer dans ton esprit « je suis quelqu'un de génial », peut-être que la première fois, c'est difficile à dire, mais plus tu vas le répéter, bah, c'est comme une fois que tu as plié ton papier, quand tu veux le replier, ça va beaucoup plus vite. Et bah, c'est la même chose. Et c'est là où l'hypnose, elle peut devenir intéressante, parce qu'on peut créer ce cheminement et ces reconnexions neuronales beaucoup plus rapidement aussi. Donc c'est comment est-ce que je recadre ce système de croyances pour reprendre le pouvoir de ma vie.
Oh bah tiens, ça tombe bien.
Non, mais pour vraiment reprendre le pouvoir de ma vie et devenir exactement ce que j'ai envie d'être. La version qu'on a aujourd'hui, en effet, t'as des gènes, ça s'exprime d'une certaine manière, etc., etc. Mais on a tous un pouvoir de changement et de transformation, notamment sur le point de vue émotionnel, quel rapport j'ai à la vie, quel rapport j'ai aux autres, quelle idée j'ai de moi-même, comment est-ce que je suis alignée avec mes projets dans la vie, etc. Et ça va encore plus loin que ça. C'est ça, c'est le système de croyance. Mais en effet, parfois, c'est difficile. Pourquoi ? On est beaucoup plus suggestif à certaines périodes que dans d'autres. C'est entre 0 et 6 ans en général. Et dans cette période de notre vie, on est vraiment en train de se construire notre identité, nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, quand on est enfant et qu'on apprend, qu'on ne sait même pas parler, qu'on apprend ce que c'est que le monde, eh ben, on intègre, on est hyper suggestif à... ce qu'on entend autour de nous, ce que nos parents vont nous dire, ce que les adultes autour de nous vont nous dire, ce qu'on va voir dans l'âge russe, ce qu'on va plus ou moins essayer de comprendre tout seul. Et potentiellement, il y a des choses qui vont être un peu biaisées, où il y a des traumatismes qui vont se créer, qui aujourd'hui, en tant qu'adulte, peuvent ne pas paraître comme un traumatisme. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux revenir sur un événement de la petite enfance en disant « Ah mais oui, mais ma mère, elle m'a parlé comme ça parce que voilà, elle était en train de souffrir à l'époque, donc je comprends, j'ai de la compassion. » Super, t'as fait ton travail d'adulte, t'as compris. C'est pas pour autant que l'enfant, à cette époque-là, eh ben, il le vivait pareil, et peut-être que ça a comme casser un peu quelque chose à l'intérieur de toi pour faciliter la compréhension, ouais. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, cette petite chose cassée à l'intérieur, bah, elle arrêtait de grandir. Et à chaque fois qu'on se rapproche d'une émotion qui est semblable, et bah, ça recommence à faire mal. Donc si, quand on est petit, on n'a pas eu assez d'attention, on n'était pas assez écouté, ou tu vois, on disait, oui, lui, c'est un enfant turbulent, il est bon à rien, je sais pas quoi, bah, peut-être qu'en fait, l'enfant turbulent, il avait juste beaucoup, beaucoup d'énergie, il avait hâte d'explorer le monde, peut-être qu'en fait, c'était surtout un enfant curieux, tu vois. Mais on ne l'a pas vu comme ça, on ne l'a pas vu avec ses qualités et on lui a dit un défaut. Bah ça, c'est petite blessure. Alors là, je te dis une petite blessure. Évidemment, on peut vite imaginer qu'il peut en exister des beaucoup plus grandes, des blessures.
Ouais, voilà. Justement, je voulais te demander, parce que je pense que pour certaines personnes très cartésiennes, ça peut être tu vois, assez bisounours de se dire « Ah, il suffit de changer son système de croyance, etc. » Donc, je sais que tu as travaillé avec des cas assez... assez complexe. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret, bien sûr anonyme, mais d'une personne qui avait une certaine maladie, un certain trouble, et comment, par cet accompagnement personnel et en refusant de stigmatiser une maladie et sans médicaments, j'insiste quand même dessus parce que bah, c'est vrai que les médicaments sont d'une aide incroyable, mais c'est pas pour tout le monde, où il y a des effets secondaires qui sont difficiles à supporter. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret?
Ouais, carrément. Alors déjà, par exemple, sur des troubles qui peuvent avoir l'air mécaniques, par exemple, il y a des troubles du sommeil, par exemple. Les troubles du sommeil qui sont constants et concrets et qui sont... on a l'impression qu'on a tout fait, qu'on a pris tous les médicaments du monde et que ça marche pas. Bah, il y a peut-être un truc ici, il y a peut-être un truc qui en fait, il y a peut-être une mémoire, c'est ça, il y a peut-être une mémoire enfouie quelque part qu'on a besoin d'aller explorer, il y a peut-être une raison pour laquelle, bah, la nuit, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a cette petite chose, ce petit traumatisme-là qui revient, qui dit « Hé, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi ». Souvent, la métaphore que je prends, tu sais, je te l'ai déjà sortie, c'est celle de la blessure sur la main, si tu as une grosse blessure sur la main, que tu choisis de la cacher d'un gant pour pas que ça ait l'air trop dégueu. Très bien, sur le coup, peut-être que ça a l'air plus joli, mais si tu la laisses sans la soigner à suinter sous le gant, excuse-moi pour l'image un peu dégueu, bah, ça risque de s'infecter et d'être vraiment moche. Et c'est un peu la même chose. Donc moi, j'ai eu plusieurs cas, par exemple, des cas, c'est hyper classique, d'insomnie qu'on a juste fait quelques voyages dans le passé ou quelques analyses symboliques et tout d'un coup, ça part, tu vois, ça part comme ça. C'est presque magique. Ou des gens qui ont des tocs, tu vois, de se toucher les cheveux comme ça, bah, c'est magique aussi. Mais je pense qu'il y a des cas qui sont vraiment extrêmes, des cas de une jeune fille par exemple qui est une nana qui est une nana extraordinaire qui m'inspire extrêmement, mais le jour où elle est venue me voir, elle est rentrée dans mon bureau et elle était au bord des larmes. Elle me disait, voilà, moi on m'a conseillé de venir te voir, mais t'es la dernière personne que je vais voir, sinon je vais me faire enfermer à Sainte-Anne. Et parce qu'elle avait peur d'elle-même, de ses obsessions personnelles, de ses troubles de, tu vois, elle avait plein d'idées à tendance pédophilique dans la tête. Elle disait, mais moi j'ai peur de faire du mal à quelqu'un, etc., etc. Et en fait, tu creuses, non seulement tu te rends compte qu'elle, c'est une personne formidable, que la peur de faire du mal à un enfant, c'est ce qui influence son système de pensée actuel, et que la raison pour laquelle l'enfant il est considéré ici, c'est qu'elle a vécu un traumatisme quand elle avait 4 ans, qui était en relation avec sa mère. Voilà, donc en fait, l'enfant de 4 ans, il était là, et le trouble sexuel, enfin, la raison pour laquelle c'était lié à la sexualité, c'était aussi que elle avait un attachement un peu... elle avait une codépendance affective qui était très, très forte. Donc ça relève d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'amour de soi qui est très important, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on allait vérifier ce qui était en train de se passer. On allait faire un retour vers le passé, donc on appelle ça une régression. On a fait un retour vers le passé pour comprendre où est-ce qu'il y avait une émotion qui était bloquée, qui n'a jamais été gérée. Souvent, c'est une passage de la vie qui est complètement oubliée par le cerveau. Donc, on allait voir ce qui se passait. Et à côté de ça, bah, on a travaillé sur l'archétype de l'enfant intérieur, sur ce qu'on appelle du reparenting. Donc, on a revu la relation aux parents. On a appris à pardonner plusieurs choses. On a retrouvé nos qualités de vie. On s'est réaligné avec qui on était. Et naturellement, une jeune fille qui était complètement au bout du trou, qui faisait des choix qui n'étaient pas forcément très sains pour elle, qui abusait potentiellement de certaines substances, etc., s'est retrouvée à avoir du fun, à continuer à avancer dans la vie, à faire la fête quand elle a envie, mais en créant des projets à côté, en changeant de boulot, en changeant de mec. Et en 6 mois, et c'était une personne complètement changée, si tu veux. En 1 an, c'est devenu une super power woman, quoi. C'est un truc de malade. J'ai vu des transformations qui, non seulement sont spectaculaires, mais qui sont aussi rapides. Après, il y a d'autres transformations, tu vois, des traumas, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, des traumatismes qui sont de l'ordre de la perte, des séparations qui sont hyper délicates aussi, où on arrive, on dit mais j'arrive pas à passer au-delà de ça, et qui en quelques séances, tout d'un coup ont compris ça différemment, ont intégré les choses d'une façon différente et sont soulagés. Parfois même les émotions fortes. Alors c'est vrai que le deuil, c'est quelque chose de particulier. On travaille aussi avec le temps, donc on apprend à gérer les émotions jusqu'au moment où on peut accompagner la personne à aller au-delà si elle l'a toujours pas fait toute seule. Mais parfois, même surtout sur des ruptures ou sur des pertes comme ça où l'émotion paraît ingérable, on apprend au corps à la gérer autrement et ça a l'air beaucoup plus léger. Et déjà ça, c'est la première étape pour prendre une grande bouchée d'oxygène et pouvoir faire un nouveau pas en avant dans la vie, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est marrant parce que là, tu me dis, donne-moi un cas, et en fait, j'en ai
tellement, tu vois.
J'en ai tellement qui me vient à l'esprit.
J'ai jamais abordé, je crois, le sujet des ruptures sur mon podcast, déjà, parce que j'en ai pas vécu vraiment. Et pourtant, on avait rompu brièvement la dernière avec Jules, et je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé sur Insta d'en parler. J'avais choisi de pas en parler parce que Jules préférait pas qu'on en parle, et en soi c'était pas c'était un cas tellement précis que je pense que ça aurait pas parlé à beaucoup de monde, mais c'est certain que j'ai vécu ce truc de tout d'un coup ça devient vraiment le poids de tes journées, c'est difficile de penser à autre chose. Est-ce que tu aurais des outils concrets à partager aux personnes qui sont peut-être en train de vivre une rupture ou qui
ont peut-être en vivre?
Toi, je sais que tu as vécu une période très difficile aussi. Même si c'est bien de le dire aussi, tu vois, t'es pas contre la médecine moderne, t'as pris des médicaments, ça a été une béquille, comme tu me dis souvent, mais c'est vrai que t'as choisi de pas te reposer là-dessus et d'utiliser d'autres outils pour en sortir sur le long terme. Donc ouais, est-ce que t'aurais des petits remèdes de grand-mère contre les cœurs brisés, ou en tout cas, qu'est-ce qui est touché en nous quand il y a une rupture, et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer peut-être d'accélérer le processus de guérison, parce qu'on sait que le temps guérit les blessures, mais
c'est une question qui est hyper intéressante et hyper complexe à la fois. Alors tu me dis des petits tips, je vais y penser un peu et je vais essayer de trouver des réponses à l'issue de ce que je vais te dire là. Mais la rupture, elle est hyper intéressante parce qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs niveaux de relations humaines. Et alors je vais décrire les plusieurs cas qui existent, et ça pourra potentiellement aider les personnes à comprendre comment ça marche. Et mine de rien, déjà comprendre comment ça marche, comprendre ce qui se passe, ça nous apaise quelque part. Ça nous apaise déjà parce qu'on se dit « Ah, ok, ça nous aide à mettre les choses en perspective et déjà c'est une source d'apaisement. » Alors, la façon dont on crée un couple, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a le côté social, donc je viens de tel milieu social, je veux quelque chose de complètement opposé ou de quelque chose de complètement similaire. J'apprécie la musique et j'aime aller faire du billard, et je sais pas, cette personne elle aime ça aussi. Voilà, il y a l'aspect un peu social de ce qu'on voit en l'autre, de ce qu'on aime. Il y a l'aspect physiologique qu'on ne maîtrise pas, c'est le côté animal en nous, on sait pas pourquoi, on aime une odeur, il y a une hormone qui nous attire, on se rend pas hyper compte parce qu'on a plus ces sens-là qui sont assez développés en tant qu'humain, mais ça joue un rôle dans pourquoi on est attiré par l'autre. Et il y a l'aspect psychologique, donc on va être vite attiré par un profil qui est complémentaire au nôtre ou très similaire. C'est comme on dit, on est pareil, on est tellement complémentaire, tu vois. Alors le problème là-dedans, c'est qu'on oublie d'être sa propre personne entière et réparée. Et souvent, on arrive dans la vie, on arrive au monde, on a forcément entre la période de 0 et 6 ans, moi je ne connais personne qui n'a pas vécu de trauma entre cette période-là, donc on n'est pas tout à fait complet comme personne, on n'est pas la personne optimale, bourrée de confiance, de bonne confiance, je ne parle pas d'ego et de crise de l'ego ici, mais de juste confiance en toi, en soi, d'être heureux avec la vie, etc. C'est difficile d'être parfait sur le plan émotionnel et personnel et identitaire quand on est jeune et quand on n'a jamais fait de travail, tu vois, c'est presque impossible. On en reparlera peut-être, mais tu vois, la relation, la façon dont on voit, encore trop en France, mais ça, c'est en train de changer, je suis hyper contente que ça change. Aujourd'hui, la thérapie, c'est plus comment je deviens My Better Self.
Décidément, voilà. Entre le pouvoir de ma vie et My Better Self, on a la totale.
Comment est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même? Et c'est à ça que ça sert la thérapie, le coaching, plutôt que de « je suis fou, il faut que je me soigne », tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas.
Ouais. Non, mais ça, je tiens vraiment à citer dessus. Bon, je pense que de toute façon, si vous écoutez ce podcast, vous avez cette ouverture d'esprit-là, surtout que j'ai déjà reçu plusieurs fois. Enfin, j'ai reçu une psychiatre, j'ai reçu des psychologues, etc. Mais je trouve qu'on parle de plus en plus de la comparaison au sport pour la santé physique. Et ben, d'aller voir un thérapeute, une psychologue, un psychiatre, c'est juste la salle de sport de votre cerveau, de votre mental, et c'est hyper sain. Et je crois que je l'ai dit dans l'épisode, mais je vais le redire, les consultations de psy seront remboursées à partir de janvier 2022, parce que parce que c'est un vrai sujet, tu vois. Ouais, c'est financier clair. C'est donc voilà, parenthèse refermée,
et c'est un énorme pas, ça c'est clair, quoi. Donc tout ça pour dire que donc déjà allez vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, ou même, tu vois, alors j'ai promis à Louise, j'ai toujours été très mauvaise sur Instagram, mais j'ai promis à Louise que j'allais me mettre à partager plus, mais aussi parce que j'ai cette conscience de ça, c'est qu'en effet, on a beaucoup de choses à partager, et peut-être que parfois il y a des choses qui nous bloquent, ouais, parce qu'on a un blocage vis-à-vis de la psycho, du coaching ou quoi, et qu'on n'a pas forcément envie de le faire, qu'on a un peu peur. Parfois c'est des questions financières, tu vois, mais il y a plein de trucs qu'on trouve en ligne. Tu citais David Laroche tout à l'heure, il a plein de vidéos gratuites en ligne qui sont hyper inspirantes. Moi je te promets, Louise, et en plus j'ai trop de chance parce que je sais que maintenant elle va me botter les fesses si je le fais pas. je vais commencer à poster, parce qu'en effet je me rends compte à quel point je l'ai toujours fait à l'oral et puis volontiers autour de moi. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut profiter plus, et voilà, il y a plein de podcasts autour de ça, c'est hyper intéressant. Mais pour revenir à nos moutons et à nos ruptures amoureuses. Donc on a cette tendance à être attiré par un profil psychologique qui nous complète, ou on a l'impression qu'on est pareil, et ça c'est confortable, si tu veux. Le problème, c'est que du coup, quand on a, c'est un peu l'effet coup de foudre, et moi je dis attention aux effets coup de foudre, et je te dis ça aussi d'un point de vue expérience et personnel, parce que je suis tombée dans le panneau mais tellement de fois, et même en connaissant ce processus, même en connaissant cette théorie, on se fait un peu rattraper facilement, on l'oublie facilement, tu vois. Donc quand on a l'impression de voir en l'autre quelque chose de complémentaire, encore une fois, on en revient à ces histoires qu'on se raconte. On idéalise l'autre facilement, on se raconte des histoires, on a l'impression qu'on est parfait l'un pour l'autre, etc. Et on entre dans cette période qu'on appelle la période lune de miel, qui dure en général entre 6 ans et... Entre 6 ans. Si seulement.
I wish.
Entre 6 mois et 1 an, c'est ça. Entre 6 mois et 1 an. Et cette période-là, on a l'impression que l'autre est parfait, il y a tout qui se passe bien, etc. Puis petit à petit, on rentre de plus en plus dans l'intimité, dans la vie de l'autre. Ça arrive souvent avec les couples, par exemple, qui aménagent ensemble très vite. Et on a quelques désillusions, on se dit « Ok, bon, je vais rien dire, je choisis d'oublier ça, je choisis de pas le voir. » Et petit à petit, c'est un peu comme de la peinture qui s'écaille, on commence à voir les vraies couleurs de l'autre. Et là, on arrive à une période du couple qu'on appelle le couple conflictuel, où il y a des conflits qui viennent, etc. Ce qui n'est pas forcément malsain, on va comprendre pourquoi. Où là, on commence à voir l'autre pour ce qu'il est vraiment. On se rend compte que la complémentarité, finalement, ça ne s'emboîte pas si bien que ça. Il y a des petites fuites par-ci, par-là, ou qu'on n'est pas exactement pareil, même si on l'avait cru. Mais on est tellement encore en train de se raccrocher à l'idéal de la lune de miel qu'on se dit « j'ai pas envie d'y croire ». Et ça, c'est un peu dangereux parce que ça nous empêche d'évoluer. Alors, il y a deux issues à ça. Où, au bout d'un moment, ça s'use tellement... ça s'use tellement cette relation et cette tension entre l'un et l'autre que on finit par rompre, ou on apprend l'un de l'autre. Si on est assez ouvert et si on a envie d'apprendre et si on croit en son couple, on peut apprendre et avancer. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de couples, potentiellement des gens qui nous écoutent, qui ont vécu ça, où on a appris par l'autre, on a grandi par l'autre et avec l'autre. On a tous les deux réussi à grandir tellement qu'on est redevenu un couple harmonieux. On appelle ça un couple divin. On a fini par comprendre qu'on n'est pas si complémentaires que ça, qu'on n'est pas pareil, qu'on est deux individus qui sont forts, et que 1 plus 1 égale 2, mais que 2 c'est harmonieux aussi. L'autre cas de figure, c'est quand il y a rupture. Quand il y a rupture, où on n'agit pas, où on reste pareil et on a encore envie de vivre dans l'illusion, c'est-à-dire être attiré par quelqu'un qui a l'air complémentaire, mais quand il est complémentaire, c'est qu'il est aussi blessé que nous. Alors voilà, nous on soigne ses blessures par l'autre ou avec l'autre, en allant voir un psy, un thérapeute, un coach ou quoi, ou pas. Peut-être que l'expérience de la vie va nous apprendre autrement, on grandit ensemble. Mais si on ne fait rien à ce niveau-là et si on se dit bah, « je vais juste en trouver un autre », il est possible que on n'ait pas passé son Oedipe, on n'ait pas soigné un trauma, etc. Et on va être redirigé vers le même type de personne. Donc tu sais, parfois on dit qu'on a un type d'homme ou de femme. C'est exactement ça. C'est, on va être repoussé vers le même type de personne et on risque de vivre la même histoire encore et encore. Et on a tous dans nos cercles une copine ou un copain qui nous dit « mais c'est toujours pareil, je revis toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes mecs, pourquoi je peux pas tomber sur quelqu'un de bien ?» Potentiellement, il y a un traumatisme ici qui date de l'enfance et qui nous fait qu'on a envie, qu'on est attiré par, ou parce qu'on a envie de sauver quelqu'un, ou parce qu'on a le complexe du sauveur, on a envie de sauver, ou parce qu'on tombe amoureux de papa et papa c'est pas forcément quelqu'un de 100% healthy, ou parce que voilà, il y a plein de raisons, il y a plein de sources, plein de traumatismes différents qui font qu'on va tomber sur le connard ou le salaud, ou j'ai pas envie forcément de citer des noms, mais quelqu'un qui ne nous convient pas et on refait cette histoire-là. Alors, au fur et à mesure, si on accumule au bout d'un moment, on apprend petit à petit et potentiellement, on va commencer à changer d'homme. De type d'homme ou type de femme, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je dis homme. C'est type d'homme ou type de femme. On prend conscience de ça. La deuxième solution, c'est que tu dis « Ah, il y a peut-être un truc qui va pas. » Et là, tu choisis de potentiellement te faire aider, de soigner tes blessures. Et tu vas passer au-delà de cet entonnoir qui te faisait avoir l'impression d'être attiré juste par un type de personne. Et tout d'un coup, naturellement, mais parce que toi, tu vas te guérir et que tes blessures vont plus être les mêmes, que psychologiquement, tu vas évoluer, tu vas pas être la même personne. Tu vas être plus heureuse, plus sereine également. Encore une fois, je parle au féminin. Pourquoi ? Parce que je l'ai vécu moi-même. Donc c'est je vous raconte ma propre histoire aussi par la même occasion, même si ça a été théorisé, c'est un vrai truc que je te raconte. Si on est une personne qui est plus heureuse, mieux dans ses baskets, etc., on risque d'attirer quelqu'un qui est plus heureux, mieux dans ses baskets, plus sain, plus aligné, etc. Donc quand on fait ce travail-là, on s'épanouit intellectuellement, émotionnellement et identitairement et on commence à être intéressé par des personnes psychologiquement comme nous, c'est-à-dire plus soignées, plus stables, etc., etc. Donc l'important ici, c'est de se dire, si j'ai vécu un truc de difficile où j'apprends petit à petit de mes erreurs, ça risque de prendre du temps, mais ça peut être une telle grosse claque dans ta gueule que tu veux aussi comprendre rapidement, mais ça peut être très douloureux, ou ça peut être aussi après une rupture, je peux me faire aider déjà sur le plan de vue émotionnel si ça a été traumatisant, parce que y a certains couples et certaines relations. On peut citer rapidement la relation du sauveur et du narcissique, par exemple, qui sont extrêmement difficiles. C'est difficile de se remettre d'un couple comme ça. C'est des profils particuliers qui ont tendance à s'attirer. Je ne vais pas partir dans les explications de ce que c'est, mais voilà. Mais ça, c'est un type, mais il y en a plein d'autres types. On va être tombé dans un schéma qui nous fait du mal encore et encore. Et si on accepte d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, de soigner nos blessures, de devenir quelqu'un de plus épanoui, on va attirer un autre type de personne dans notre vie. Et naturellement, on va directement se pencher plus vers le couple harmonieux, en fait, où la période de tension, elle ne va pas forcément exister. Et peut-être aussi qu'on va entrer dans une relation de façon un peu différente. On va moins avoir de coups de foudre, mais le coup de foudre, encore une fois, c'est un faux ami. Alors parfois, ça marche quand on évolue vers un couple harmonieux petit à petit. Je ne dis pas que ça existe jamais, mais je dis parfois, il faut faire attention parce que c'est peut-être révélateur d'une blessure. Ouais. Et peut-être qu'on peut changer de façon de tomber amoureux. On change de personne dont on tombe amoureux et ça arrive naturellement, il n'y a rien à faire. Et naturellement, c'est comme parfois naturellement, on a l'impression qu'on rencontre personne. Et c'est peut-être qu'on a un blocage, qu'on a l'impression qu'il y a une carapace autour de nous et qu'on rejette tout le monde. Mais peut-être qu'en fait, que c'est une blessure et quand on enlève cette blessure, tout d'un coup, on va voir qu'il y a plein de gens qui nous intéressent. Et ils vont arriver naturellement dans notre vie, tu vois.
C'est hyper intéressant. Et c'est vrai que sans avoir conscience de tout ça, moi, j'ai observé dans mon entourage, proche, que les relations qui avaient du mal à marcher, c'est souvent quand il y avait une des deux personnes qui n'avait pas réglé des choses avec elle-même. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très libérateur quand on se rend compte, et je tiens vraiment à insister dessus, parce que j'en parle dans le livre que j'écris aussi, mais c'est... Arrêtons d'investir dans le potentiel de quelqu'un, en fait. C'est investissez dans ce qu'est la personne maintenant, et ce n'est pas votre rôle d'aider quelqu'un à devenir son idéal. Je sais que parfois on a envie d'y croire, etc., mais pour vous préserver, vous, notamment, tu l'as dit, des pervers narcissiques et d'autres types de personnes qu'on n'a pas envie d'avoir dans sa vie, c'est faut savoir vraiment parfois se choisir soi. Et je sais que c'est hyper difficile quand on aime quelqu'un, mais en fait, même si vous aimez quelqu'un et que vous êtes dans cette situation, dites à la personne, il faut que tu travailles sur toi-même, en fait, et c'est pas moi qui vais te soigner, il faut déjà que je me soigne moi-même. Et si on est fait pour être ensemble, on se retrouvera, mais quand tu auras travaillé sur toi-même. Et si cette personne vous aime vraiment, elle fera le travail. Mmh. Et je pense vraiment que c'est important d'insister là-dessus, parce qu'en effet, on ne pourra pas avoir une relation saine si la personne en face de nous n'a pas travaillé sur elle-même. Et si parfois nous-mêmes, parfois on est la personne dans ce duo, dans cette dynamique, qui doit faire du travail sur elle-même, souvent c'est les deux d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment important d'insister dessus, où parfois on se blâme parce que voilà, une relation ne marche pas. Et comme tu dis, souvent c'est des schémas répétitifs, mmh. et ben c'est juste un indice mmh. qu'il y a une blessure et qu'on doit travailler dessus et que tout le monde se sentira mieux après, quoi.
Écoute, tu l'as vachement bien dit. C'est vrai que déjà, on peut pas décider de changer l'autre. On peut jamais changer l'autre. On peut une raison pour laquelle il a envie d'évoluer, de se transformer. Et moi, je préfère utiliser évoluer, se transformer, parce que pour de vrai, tu changes pas son essence à la personne.
C'est vrai.
Mais tu peux le faire évoluer, le faire grandir. Tu peux le soigner. Tu vois, parfois les gens, même les narcissiques, c'est pas des gens qui sont profondément mauvais, même si c'est ça qu'ils vont partager avec le monde sous certaines formes, tu vois. C'est des gens qui sont profondément blessés, tu vois, c'est bête. Mais, et ça, cette décision de se soigner, d'aller mieux, d'évoluer, c'est une décision qu'on ne peut que prendre pour soi-même. S'il y a quelque chose en nous qui dit bah, « je veux pas, je suis pas prêt », ça ne marchera pas. Surtout, on va pas le faire, en fait. On va pas faire le travail. Et t'es bien placé au cours de cette retraite, par exemple. On a tous évolué cette semaine. C'est du boulot d'évoluer.
Ouais, ouais.
C'est du boulot. Mais ce qui est chouette, c'est que toutes les marges de ce process, de ce processus, c'est satisfaisant et ça nous apporte une certaine joie, une certaine satisfaction. Et c'est vrai que c'est très important de rappeler qu'on n'est pas là pour sauver l'autre, qu'on peut pas sauver l'autre, qu'on ne peut que se sauver soi-même et que souvent, c'est difficile de dire que c'est toujours l'autre le problème, tu vois. C'est intéressant ce que tu disais à l'instant. L'autre n'est pas responsable de nous rendre heureux. Quand on est avec quelqu'un parce qu'on a l'impression que la personne nous rend heureuse, c'est la preuve fondamentale qu'on a quelque chose en nous à soigner. On est responsable de son propre bonheur. Et si on n'est pas heureux, et ben c'est nous le problème. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a du travail à faire potentiellement. Et peut-être qu'on fait des mauvais choix de personne et que ça ne nous rend pas heureux. Mais c'est mon choix à moi à l'origine, tu vois. Et c'est aussi hyper égoïste quelque part. Et pardon si ça heurte certaines âmes, mais c'est hyper égoïste quelque part de laisser reposer son bonheur sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est une charge énorme. T'imagines si je te disais, bon Louise, je t'aime beaucoup, à partir d'aujourd'hui, tu es responsable de mon bonheur.
Ouais, c'est clair.
C'est une charge énorme.
C'est clair, et on a tendance à le faire, notamment quand on a des blessures, parce que c'est tellement plus simple de se dire, cette personne m'apporte du bonheur, elle me rend heureuse. Alors qu'on se le dise, je pense que ni toi ni moi, on est en train de dire que personne ne peut vous rendre heureux. C'est, des personnes peuvent contribuer à votre bonheur,
en fait,
évidemment,
construit
mais
ensemble,
vous êtes avant tout le propre maître et la propre maîtresse. Aparté, mais ça me saoule vraiment parce qu'à chaque fois j'utilise le terme maîtresse maintenant, je me dis mais c'est dingue à quel point on a diabolisé ce terme, où tu vois le terme maître ne renvoie à rien si ce n'est la maîtrise, et le terme de maîtresse renvoie forcément à l'amante de quelqu'un. Bref, ça m'énerve. Patriarcat.
c'est
juste bon. Voilà, vous êtes chacun et chacune au pouvoir de votre vie et donc de vos relations aussi. Et en effet, c'est hyper important de réaliser que on est avant tout capitaine. On va utiliser le mot capitaine dans son bateau parce que, comme tu dis, c'est trop de travail de faire reposer ça sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ça peut être des contributeurs, mais pas à l'origine d'eux.
C'est qu'on commence à construire quelque chose ensemble et on vit des choses heureux à deux. Mais tu imagines bien que quelqu'un d'heureux plus quelqu'un d'heureux, ça crée un mécanisme de super bonheur, si tu veux.
C'est,
en effet, les personnes autour de nous, ça peut être des gens qui sont fun, et qui ont fait des trucs intéressants et c'est super. Mais c'est aussi parce que fondamentalement, on les choisit bien, parce que plus on est heureux et plus on les choisit bien d'ailleurs.
Ouais,
tu vois, il y a un phénomène de synergie ici. Si, en fait, le problème dans... En effet, les gens qui sont autour de nous vont contribuer à rajouter du bonheur dans notre vie. Et à rajouter, c'est comme du sel, c'est comme les épices dans un plat, tu vois. C'est des petites épices qu'on rajoute et c'est quelque chose en plus qui est super chouette. Mais...
make the food.
Le truc, c'est que si jamais la personne en face qui a un libre arbitre décide de partir... il part avec ton bonheur et t'as l'impression qu'il est parti avec une partie de toi. Et c'est ça qui fait mal. C'est que tout d'un coup, souvent d'ailleurs dans les ruptures, on va se dire j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est morte ou j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de moi-même.
C'est ça que j'aime pas le terme de moitié. J'en parle dans le livre. Non, c'est pas votre moitié du tout. C'est vous êtes vous-même, une personne, et il y a un extra, mais c'est notre moitié.
C'est leur donner le pouvoir et c'est là où ça fait peur. C'est que mine de rien, qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas, inconsciemment, on sait que si la personne vient à disparaître ou n'est plus pareil, ben, on a toute une partie de notre bonheur qui va mourir avec ou qui va disparaître avec ou qui va nous être piqué avec. Ou tout, enfin, voilà, tu le présentes comme tu veux. Mais c'est leur donner trop de pouvoir sur notre vie, quoi. Ouais. Beaucoup trop. Alors que si tu es une personne entière qui profite de ce moment avec l'autre, ben, c'est complètement différent. Non seulement ça, mais aussi c'est plus facile de profiter de toutes les bonnes choses qu'il a à nous offrir sans attente. C'est-à-dire que s'il a la mission de te rendre heureux et qu'il faut qu'il fasse ça pour te rendre heureux, etc., etc., ben, s'il ne le fait pas, tu vas construire de la frustration et potentiellement de la colère envers cette personne-là. Alors que si tu es là pour accueillir sans attendre vis-à-vis de l'autre parce qu'il n'a pas la mission de te rendre heureux, et bah toutes les petites choses de la vie, toutes les petites surprises, les petits sourires, les petites attentions, etc., c'est que du plus et tu le vis comme du plus. Et si ce n'est pas là, et bah tu n'es pas frustré, tu n'as pas de la peine à cause de ça, tu vois. Et ça, c'est très important parce que souvent on dit « Ah ben bah non, bah, il ne fait plus de mots doux, il fait… Bah, » voilà. Donc c'est un minus, tu vois, c'est quelque chose en moins. Alors que si c'est que des choses en plus, et bah, on a une base qui est ma base, moi, je suis heureux normalement, basiquement, je suis un super bon gâteau, et la personne en face, et bah, tu rajoutes les toppings, un peu de crème chantilly, un peu de copeaux de chocolat, une petite cerise par-ci, par-là. Et c'est ça l'autre, c'est comment est-ce que je fais un gâteau encore plus beau, encore meilleur, mais la base, si elle est déjà savoureuse et onctueuse et pleine de chocolat, en tout cas pour moi, et ben c'est super. Ça, c'est notre base de notre ghetto, notre base de notre vie, nous-mêmes, notre identité. Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'on trouve notre source de propre bonheur, qu'on soit assez fort et assez soigné pour décider d'être heureux. Et là, à partir de là, c'est trop cool. Le reste, c'est que du bonus, quoi.
Je pense qu'il y a peut-être des personnes là qui écoutent et qui se disent « Ouais, j'aimerais bien, mais mon copain ou ma copine n'est pas du tout dans ce délire-là. » Enfin, voilà, tu vois, il y a aussi forcément quand nous, on a envie de changer, qu'on sait que la personne en face est potentiellement vraiment la bonne personne ou en tout cas quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, mais qu'elle est moins réceptive. Je pense au livre parce que je sais que ça peut être un bon moyen doux d'entrer dans une phase de changement. Mmh. Est-ce que tu aurais des livres à nous recommander, à lire pour nous ou à offrir pour entrer peut-être dans cette démarche d'évolution ? Je trouve que c'est en effet un terme encore plus pertinent que changement parce que, personnellement, j'ai lu les livres ces dernières semaines qui m'ont vachement aidé. Et, bon, encore une fois, je vous ai partagé sur Insta, mais je pense que tu en as d'autres qui peuvent nous aider.
Alors, laisse-moi réfléchir. Et en effet, parfois, on se dit qu'en fait...
Vas-y.
Je prends mon temps. Alors, en effet, il y a quelques bouquins que je peux recommander. J'en profiter juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est hyper intéressant, en disant, en fait, si ça dépend de l'autre, peut-être que je n'arriverai pas à le changer. C'est vrai. Et c'est une réalité qui peut être un peu douloureuse et qui peut être un peu difficile. Alors, il y a deux choses ici. C'est déjà... tu sais, donner l'exemple, c'est la meilleure façon d'avoir une influence sur l'autre. Donc si nous, on commence à être plus heureux, à soigner, etc., ça va potentiellement influencer l'autre. Déjà, ça va peut-être naturellement changer son comportement. On va naturellement peut-être adopter un nouveau mode de communication avec la personne qu'on a en face. Et ça, c'est hyper sain. Ça peut que faire évoluer le couple en général vers quelque chose de meilleur. Il suffit peut-être de commencer soi-même. Il suffit peut-être... d'entamer une thérapie ou un coaching, tu vois, pour se sentir mieux dans ses baskets et en parler avec l'autre. Peut-être que ça va l'intéresser. Petit à petit, il voudra y aller. Il est possible aussi, si on est dans une relation un peu toxique, que ces changements-là, ils n'aient pas envie de se faire. C'est-à-dire que quelqu'un d'hyper toxique, il n'aura pas envie de changer. Pourquoi ? Parce que s'il a un ego... Les personnes narcissiques sont comme ça, mais ce ne sont pas les seules. Si l'ego, il est tellement blessé, c'est-à-dire que si on a été tellement blessé quand on était jeune, qu'aujourd'hui, on est devenu une personne un peu toxique, souvent, c'est très difficile de regarder à l'intérieur de soi-même. Pourquoi ? Parce que ça fait mal. Ça fait mal de se dire, j'ai tout à reconstruire à l'intérieur. Donc, on ne va pas le faire. C'est des types de personnalités qui, naturellement, vont pas aller voir un psy, vont pas aller voir un coach, où ça va être extrêmement dur de les porter vers la première séance. C'est trop d'énergie à perdre, si tu veux. Donc, c'est peut-être prendre conscience de ça quelque part. Et c'est vrai qu'en entamant un processus de changement, si on en couple avec une personnalité un peu toxique, ça risque d'être le cas. Si en effet, là, tu me parles de gens que mon mec, il veut pas changer, je sais pas quoi. Si vous avez l'impression qu'il y a un besoin de changement, ou on commence soi-même et on entraîne potentiellement l'autre dans un changement ou activement, dans une évolution ou activement, ou parce que moi je change ma relation à l'autre et que de fait, y a une nouvelle synergie dans le couple. S'il y a un refus en face, alors et que ça change pas et que ça peut-être parfois ça empire, déjà faut se poser des bonnes questions si tu veux. Et après, nous en devenant un être humain plus fort, plus heureux, plus stable, plus solide, plus soigné, bah, il est possible qu'à un moment donné, tu dis « Oh, mais qu'est-ce que je vois en cette personne, en fait ?» Donc, potentiellement, il risque d'avoir un changement. Mais attention, ce que je dis là, ça peut faire peur, parce qu'on peut se dire, pour quelqu'un qui a une tendance à être un peu codépendante, par exemple, on peut se dire « Ah, mais j'ai pas envie de partir, ça fait super peur. » Mais quand on est soigné, on n'a plus peur. On est hyper fort. Et on commence à se dire « Ah ben, cette relation, je vois en quoi elle est bien pour moi et je vois comment je peux apporter de l'énergie pour soigner le couple. » Et c'est possible, je l'ai vu plein de fois. C'est vraiment possible. En commençant un changement qui vient de nous-mêmes, on commence toujours... Le changement, il est forcé de venir du jeu. On ne peut pas changer le tu. Il faut qu'il vienne du jeu, mais ça peut provoquer une nouvelle synergie dans le couple. Si on grandit, il est possible qu'on se rende compte que la personne en face potentiellement est toxique. Mais parce qu'on est grand, on a grandi, parce qu'on est soigné, parce qu'on est évolué, on n'a plus peur, on se casse et ça devient facile, tu vois.
Donc ça, c'est le cas de figure des toxiques. Mais pour, à mon avis, des personnes qui sont juste sceptiques, mais qui ne sont pas fermées au changement, est-ce que tu as des livres à recommander ?
Alors, des livres à recommander. Dans ce cas particulier,
Bah, en fait, non. C'est assez large ce que je te demande parce que, au fond, cette personne-là, le but, ce n'est pas de lire des livres sur le couple, tu vois. C'est à chaque fois, on en revient à la même chose, c'est... comment on soigne ses blessures. Enfin, c'est ça dont tu nous parles depuis le début.
Alors, il y a un livre que je sais que tu as lu qui s'appelle les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourdeau.
Bourbeau.
J'ai une petite dyslexie de DAB, ça m'arrive super souvent. Et, alors, ce nom-là, voilà. Alors oui, il y a les 5... Voilà, alors ce que... Attends, je me redresse.
Vas-y.
Excuse-moi, tu vas devoir faire plein de coupes.
T'inquiète.
Alors oui, il y a un livre, en effet, que je peux te recommander, mais tu l'as déjà lu. Je recommence. Donc oui, il y a en effet un livre que je peux recommander. Je sais que tu l'as déjà lu. Ça s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Louise Bourbeau.
Lise Bourbeau.
De Lise Bourbeau. Qu'est-ce que je dis, Louise ?
Ouais.
Attends, je recommence encore.
Je vais y arriver.
Alors en effet, je peux commencer par un livre qui m'a beaucoup marqué personnellement. Je sais que tu l'as lu également, qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Qui est un super bouquin, qui est une très belle première approche de la psychologie jungienne et qui rassemble un peu certaines blessures décrites par Jung. Donc elles sont pas forcément toutes présentes, mais c'est essentiel si tu veux. Elle démocratise le langage psychologique et c'est ça qui est important. Elle le fait super bien. C'est hyper accessible. C'est des bouquins qui sont tout petits, qui sont très faciles à lire. Les premiers chapitres sont un peu une claque dans la figure quand on n'a pas forcément envie de voir où est-ce qu'on pêche un peu, tu vois, où est-ce qu'on n'est pas forcément bien construit ou bien soigné. Mais tout va bien parce que le dernier chapitre est là pour se réconcilier avec soi-même.
Ouais, et puis, alors je pense que c'est important de souligner, prenez ce que vous avez à prendre. Parce qu'il faut quand même être très ouvert d'esprit.
Ouais.
Elle est très croyante, donc ça ne parle pas à tout le monde. Ouais. Elle est très dans le « vous avez choisi vos parents
». Oui, c'est vrai.
Voilà, il faut être très ouvert d'esprit. Mais je suis d'accord que le fond est très enrichissant.
Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. C'est souvent comme ça que je le présente aussi à certaines patients à qui je recommande ce bouquin. Après, d'autres bouquins, pour continuer d'apprendre à se connaître. Alors, j'ai deux choses à recommander. C'est un bouquin qui est sorti cette année, qui est super, qui est sorti en anglais et qui est en train d'être traduit en français. Donc pour ceux qui sont anglophones parmi vous, ça peut être une lecture hyper chouette à commencer. Sinon, la version française va sortir dans pas si longtemps parce que c'est un bouquin qui a eu un succès extraordinaire, qui est devenu top-seller du New York Times super rapidement également. C'est un bouquin qui s'appelle « How to do the work », qui a été écrit par un docteur en psychologie hyper... moderne, avec une approche très jungienne également, qui s'appelle Nicole Lepera.
Psychologue holistique.
Exactement. Alors ça, c'est son nom sur Instagram, figure-toi. C'est pour ça que j'en parle.
D'accord.
Parce que si on veut parler des comptes à suivre, par exemple, des sources intéressantes à aller explorer, mais allez la suivre, elle s'appelle The Holistic Psychologist. The Holistic Psychologist sur Instagram. Elle poste hyper régulièrement et franchement, mais allez vous abreuver de tout ce qu'elle poste là-dessus. C'est super simple à comprendre et ça peut vous aider à comprendre certains de ces schémas qui se reproduisent, pourquoi est-ce qu'on retombe dans le panneau et surtout comment soigner soi-même. Alors, son bouquin, il est super parce qu'il est vraiment sur la guérison. Il est basé, alors, c'est un guide, c'est pas un thérapeute, mais c'est un guide qui peut nous aider à comprendre. Ça peut être un premier pas vers une guérison. C'est sur ce qu'on appelle le reparenting, donc c'est soigner ses blessures, ses relations à ses parents, à soi-même en tant qu'enfant. Et ce bouquin, il est super bien fait.
Je le note aussi.
Franchement, Je le recommande. Ouais. Donc, ouais, Lise Bourbeau, Michel Petit-Collin et ce bouquin How to do the work. Je dirais que ça, ce sont mes trois recommandations. Okay. En plus d'aller chercher sur YouTube ces choses qui vous intéressent. Franchement.
Super. Bon, bah écoute, je vais te poser les deux dernières questions que j'ai à te poser. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ?
Qui est-ce que ce serait ? J'ai le droit français-anglais ?
Ouais.
Elle. cette nana-là. Et en vrai, je pense que tu la contactes, il est possible qu'elle l'accepte, quoi. Même si t'es française et que ça doit être un peu bizarre pour elle, tu vois, mais c'est une nana qui a l'air super. Ouais, Nicole Lepera, c'est une nana qui est brillante et qui parle de psycho comme personne. Après, Jean-Emma Watson.
Emma, je nous écoute.
Ouais.
Écoute, la dernière question, tu la connais, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Ah, on en a parlé juste avant. pour moi, c'est prendre le pouvoir de sa vie, c'est apprendre à se connaître finalement. C'est être capable, avoir le courage d'arrêter de se raconter des histoires et de connaître, d'apprendre à reconnaître ses valeurs, c'est-à-dire où est-ce que je mets de l'énergie dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'en mettre, et de commencer à vivre comme ça, commencer à vivre en fonction de ce qu'on aime et en fonction de ce qu'on a envie de donner au monde. À partir du moment où on arrive à comprendre quelles sont nos valeurs, c'est-à-dire arrêter de se raconter nos valeurs. Souvent, quand on dit « c'est quoi vos valeurs ?»« Bah, pour moi, c'est la générosité, l'argent, la famille. » Alors oui et non, déjà c'est hyper vague, on ne sait pas ce que ça veut dire, ou parfois on dit bah, la famille en premier parce que ça fait bien, mais pour de vrai, bah, si t'es quelqu'un qui passe que 2 heures par jour avec ta famille, ça se trouve il y a un autre centre d'intérêt, si ça se trouve c'est pas ça ta première valeur, et c'est ok, et c'est apprendre à se connaître pour savoir qui on est, peut-être apprendre à se soigner pour savoir reconnaître qui on est, et donner au monde toute la lumière qu'on a à partager. C'est qu'à partir du moment où on partage sa vérité avec le monde, ses vraies passions, son vrai amour, qu'on a un vrai impact. Et ça, tu sais mieux que personne. C'est parce qu'on vit de ses passions et parce qu'on les partage qu'on a un vrai impact sur ce monde. Et pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est reconnaître ce qui nous passionne pour être hyper bon, pour aller vachement plus loin et pour partager tout ce qu'on a à partager avec ce monde.
Génial. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette conversation hyper enrichissante, hyper intéressante. Pour les personnes qui nous suivent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, peut-être travailler avec toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Écoute, je peux te donner mon mail en vrai, mais je suis mentorée, coachée par Louise pour être plus présente sur Instagram. En soi, je suis présente sur Instagram, c'est juste que jusqu'à présent, je n'ai pas énormément posté, mais j'ai promis de faire au moins 2 posts par semaine à partir de maintenant. Donc je dirais que franchement, Instagram, c'est une bonne base et en plus, ça va me pousser à être de plus en plus présente et à être postée de plus en plus... pour vous.
Oui, donc c'est @AnaïsAngle.
Angle, c'est ça. En fait, en anglais, ça se lit Anaïs is Angle et c'est un peu, c'est genre le point de vue d'Anaïs.
Mais voilà. Tu postes en français, c'est important de
préciser. Mais je poste en français, ouais. Je poste dans les deux langues en fait. Ouais. Et je poste toujours en français.
Et parce tu aides dans les deux langues aussi,
ouais,
j'accompagne
dans les deux langues, en anglais et en français. Et j'adore ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant en fait d'être entre deux cultures et de s'enrichir des deux, et de partager tout ce qu'on a partagé dans les deux langues.
Super, donc, écoute, je mettrai ton Insta et ton mail dans les notes du podcast. Mmh. Et ben je te dis à tout de suite parce qu'on va aller manger.
Ah, j'ai trop hâte, je commence à avoir trop faim.
Bisous, merci beaucoup Anaïs.
Merci Louise.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @anaïs-engle et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes en nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y a plus de 170 épisodes qui sont déjà disponibles sur InPower. Vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.